Lundi 12 juillet 1976, l'invité du lundi, le peintre anglais Francis Bacon. 67 ans, sans aucun doute l'artiste britannique avec Henry Moore, le plus connu hors de Grande-Bretagne. En France, le grand public l'a découvert à l'automne 1971 aux Galeries Nationales du Grand Palais, à Paris, un Bacon. Comment est-ce ? En simplifiant beaucoup, c'est un grand tableau d'environ 2 mètres de haut. En bas, une sorte de socle circulaire. Sur le socle, un siège. Sur le siège, un pape, tout rouge et qui hurle. Et bien souvent, les tableaux de Bacon sont reliés, disposés par trois. Ils forment des triptyques. Actuellement, jusqu'au 30 septembre, au musée Cantini à Marseille, on peut voir un ensemble de tableaux de Francis Bacon de 1969 à 1976. Et cela nous a paru être l'occasion d'inviter Francis Bacon à cet après-midi de France Culture. La formule, bien sûr, sera un peu différente de l'ordinaire. Pas d'autoportrait, mais une rencontre avec Francis Bacon, un long entretien exclusif dans les salles du musée.
Mais vous savez, avec ces tableaux, on ne peut pas expliquer la peinture. Voilà, il y a des images qu'on peut interpréter. Chaque personne peut les interpréter comme il veut. Moi, je ne les interprète jamais. Je n'ai pas mes tableaux que je n'interprète pas, mais je n'interprète pas les tableaux des autres. Même, je ne sais pas d'interpréter Rembrandt. Parce que c'est un côté du l'art plastique, c'est un côté du système nerveux qui part tout de suite sans l'interprétation. Qu'est-ce que je peux bien d'autre?
Merci beaucoup. Maintenant, on va aller dans un bureau tranquille et on va parler de tas de choses.
Et pour faire tout de suite connaissance, quelques remarques de Francis Bacon, d'abord sur la politique.
C'est important, mais je ne me mêle pas dans la politique parce que je trouve que c'est un moment tellement difficile. Et un peu partout, presque tous mes amis sont communistes, mais je n'aime pas la dictature du communisme ni du fascisme. Alors, je suis dans dans le vide dans cette question de politique.
Sur la religion.
J'étais né protestant en Irlande, mais ça m'a jamais. Pour moi, ça n'a pas d'importance du tout. Je ne suis pas croyant du tout.
Sur un idéal de société.
Je n'ai pas un idéal de la société. Nous avons passé par un moment, je crois, depuis que j'étais né, où on avait une sorte de liberté que j'ai peur qu'il va passer très vite.
Puis vers 15h40, un concert pour Francis Bacon préparé par Martine Cadieu et de 16h à 17h en multiplex Londres-Genève-Paris, un débat sur Francis Bacon et la peinture anglaise avec les critiques anglais Pierre Rouve et Pierre Jeanneret et le critique français Gaëtan Picon. De 17h à 18h, Françoise Malétra, Michel Amgral, l'heure de pointe. Prise de son, Michel Créis, Alain Durniac, mise en page, André Mathieu. après-midi de France Culture, tous les jours du lundi au vendredi, 15h-18h. Pour vos critiques, vos suggestions, une adresse, pièce 8716, maison de Radio France, 75 786, Paris, CEDEX 16. Et pour intervenir en direct dans le programme, un numéro de téléphone, 224 32 63. C'était il y a 3 jours à Marseille. Francis Bacon nous a fait le plaisir de se raconter en français. Francis Bacon, la vocation de la peinture.
Malheureusement, je ne parle pas bien français. Parce que quand j'étais jeune, j'étais né en Irlande, et mon père m'a dit, si vous parlez l'anglais, vous n'avez pas besoin de parler d'autres langues. Alors c'est comme ça, je n'ai pas appris des autres langues. Et c'est comme j'étais... Et je suis très paresseux et je n'ai pas vraiment étudié, malheureusement, la langue française. Et c'est parce que j'aime énormément la France et j'ai des amis ici. Sans étudier la langue, j'ai commencé à parler un peu, mais c'est tellement limité, malheureusement.
Vos rapports avec Paris, quand est-ce que vous êtes arrivé à Paris ?
Je suis parti de Londres quand j'avais 17 ans. Je suis allé à Berlin à ce moment-là, qui était très intéressant parce que c'est une ville toute ouverte. Mais je ne suis pas resté très longtemps à Berlin. Et puis je suis venu à Paris. Mais je ne suis pas resté vraiment, sauf quelques semaines à Paris. Mais j'étais tellement attiré par Paris, que j'ai toujours retourné souvent.
On sait que vous avez habité près de Chantilly, puisque dans vos entretiens avec Sylvester, vous parlez d'un tableau de Poussin que vous alliez régulièrement voir au musée Condé.
C'est ça. Oui, j'ai habité tout près de Creil. Alors, j'avais des amis là. Alors, je suis resté avec eux quelques semaines. Et ils sont restés amis avec moi, ils sont venus même en Angleterre.
Mais vos rapports avec Paris, ce n'était pas seulement des rapports avec une ville, c'était aussi peut-être des rapports avec des expositions, des musées.
Ah oui, bien sûr. C'est à Paris que j'ai vu cette grande exposition. Ça, c'était beaucoup plus tard, cette grande exposition de Picasso. C'était en 32-33. Et ça m'a beaucoup ému. C'était peut-être même un peu plus tard. J'oublie maintenant exactement l'année. Et quand je suis sorti de cette exposition, je pensais pourquoi je peux pas essayer à faire la peinture moi-même. Parce que je n'ai jamais étudié la peinture, je n'ai jamais allé dans une école, mais la peinture m'a toujours beaucoup, les arts plastiques m'ont toujours beaucoup ému. Vous savez, en Irlande, c'est un peu difficile. C'est ce qu'on trouve avec les Irlandais, je connais les Irlandais, j'ai né dans le sud d'Irlande. C'est la façon de parler qui est magnifique. Ils inventent tout le temps les phrases. Et c'est... Vous savez, les plus grands écrivains de notre époque, je crois même les plus grands écrivains de notre époque, ont été irlandais, de l'anglais, irlandais ou américains.
À cette exposition de Picasso, quels sont les tableaux qui ont été le plus importants pour vous ?
On avait des natures mortes que je n'aime pas tellement maintenant. Et puis, mais avec cette exposition, je commençais vraiment à regarder les tableaux de Picasso, les tableaux cubistes que j'aime beaucoup, mais ce que j'aime énormément, c'est les tableaux qu'il a fait entre 26 et 35. On dit qu'il n'était pas influencé par le surréalisme, mais j'ai parlé avec un grand ami à lui, on dit qu'il n'était pas influencé par le surréalisme, mais en même temps, je crois que Picasso était un homme qui absorbait tout autour de lui. Alors, c'est ces tableaux que je préfère moi-même, même aux tableaux cubistes.
Est-ce que vous avez vu à Paris l'exposition surréaliste en 1936, je crois ?
Non, mais on a eu la même exposition après à Londres, que j'ai vue. Et on est venu voir mes tableaux, quelques tableaux que j'avais à ce moment-là, et on ne voulait pas les exposer parce qu'on a dit qu'ils n'étaient pas assez surréalistes. Même que j'étais influencé par le surréalisme, je ne crois pas, peut-être ils sont surréalistes.
Francis Bacon, les œuvres d'élection. Tout à l'heure, devant les tableaux, vous disiez que vous n'aimiez pas commenter la peinture. Et pourtant, nous, on aimerait bien savoir quelle sorte d'art vous aimez. Je sais pas, peut-on commencer par exemple, est-ce que vous aimez la peinture des enfants ou pas?
Là, dans les enfants, je n'aime pas tellement. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'aime l'art qu'on trouve dans le nord, surtout dans le nord de l'Espagne, l'art préhistorique. Ça m'intéresse énormément. Et après, vous savez, il y a tant de choses qui m'intéressent. Je ne sais pas exactement où commencer. Moi-même, j'ai tout regardé et j'ai tout absorbé. Je suis une sorte de bétonneuse qui absorbe tout. Et on ne sait pas exactement quelle, on sait pas même pas, pas c'est pas une question d'exactement, on ne sait pas quelle image va en sortir de cet mélange. Mais c'est ce que j'admire énormément, c'est Rembrandt et Velázquez. Et puis, en France, l'impressionnisme, Cézanne, et c'est une question difficile avec l'art cubiste. Avec Picasso, je préfère les choses qu'il a fait jusqu'avant le cubisme. Il y a certaines choses cubistes que j'aime énormément. Le portrait de Kahnweiler et plusieurs tableaux. Mais au fond, je préfère ces tableaux de l'époque entre 26 et 35 et des autres moments, et sa sculpture. C'est difficile avec Picasso parce que c'est un génie, il était toujours tellement intéressant. Mais dans cette, on parle toujours du cubisme, mais pour moi, dans un sens, le cubisme est une décoration sur Cézanne.
Il y a des peintres dont vous parlez aussi souvent, c'est Claude Monet, par exemple.
Alors, bien sûr, Claude Monet était le vrai impressionniste. C'était le grand impressionniste. Et qui me touche énormément, toujours, c'est aussi Degas, et bien sûr Seurat. Mais C'est une époque tellement remarquable, c'est ce qu'on appelle l'impressionnisme. Mais pour moi, le grand impressionniste était Monet, parce que Cézanne n'était pas impressionniste.
Un peintre dont vous vous êtes beaucoup occupé, c'est Vincent Van Gogh.
Il a trouvé une technique tout à fait nouveau pour enregistrer les choses les plus simples. Et ça dure toujours avec sa violence, ça vous retourne à l'image dans une façon tellement extraordinaire. Mais je crois quelque part que Van Gogh a dit qu'il voulait que sa peinture soit de plus en plus artificielle pour retourner par sa façon à la réalité.
Et parmi les artistes contemporains, est-ce qu'il y en a quelques-uns avec qui vous avez des affinités?
Pour moi, ça c'est un peu difficile. Après Picasso et Matisse, c'est un peu parce que peut-être je ne connais pas assez bien. Je connais c'est ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. L'Amérique ne m'a pas beaucoup dit. Mais je préfère l'art pop.
Je crois qu'on connaît un peu maintenant votre musée imaginaire. Est-ce que vous avez une bibliothèque avec des textes importants pour vous? Tout à l'heure, vous disiez que les Irlandais et les Américains vous semblaient être les écrivains les plus importants de l'époque. Alors peut-être pouvez-vous nous parler un peu des livres que vous ouvrez quand vous avez besoin de vous faire plaisir ou de réfléchir?
Oui, j'ai l'habitude de toujours lire la même chose. Pour commencer, j'ai beaucoup lu Shakespeare, bien sûr. J'ai lu les Grecs de Eschyle et Sophocle et tous ces gens-là que j'aime. Et pour moi, ça m'a tellement touché, mais c'est seulement en traduction que je les ai lus. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup perdu. Et puis, Racine, que j'ai lu beaucoup, et Proust, qui m'a beaucoup, beaucoup dit. Mais avant, dans la poésie, avec Baudelaire, Rimbaud, et il y a plusieurs écrivains de notre époque qui m'a beaucoup touché. Quand j'étais assez jeune, j'ai lu L'âge d'homme de Michel Léris et après Du règle du jeu, que je trouve magnifique.
Et dans tout ça, il n'y a pas un écrivain de langue anglaise, à part Shakespeare?
Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Parce que vous savez, il y a tous ces dramatistes jusqu'après Shakespeare. On avait Webster et Turner et tous ces gens-là. Mais, comment dire? Oui, j'ai beaucoup lu Eliot, qui était américain, et Yeats, en irlandais. Beckett, malheureusement, je n'ai pas lu.
Francis Bacon, la réalité humaine. J'aimerais que vous nous parliez de la... C'est un mot que je prends dans vos entretiens avec David Sylvester, de la réalité humaine. Ça, c'est un monde, la réalité humaine. Et puisque vous faites des portraits, Francis Bacon, j'aimerais, en préambule, vous demander ce que c'est que la ressemblance.
J'essaie à faire les portraits parce que c'est la chose la plus difficile à faire maintenant dans la peinture. Parce que c'est pas tellement difficile à faire en illustration de quelqu'un, mais vraiment faire le portrait de quelqu'un, de faire les traits qui ne soient pas des illustrations complètement, est horriblement difficile. Bien sûr, on n'a pas réussi à faire ça, mais peut-être quelqu'un va arriver à faire des grands portraits dans notre époque.
Est-ce que vous pourriez développer une idée que je trouve dans votre entretien avec Sylvester ? Je vous parlais un moment d'image irrationnelle, en disant qu'elle est plus efficace, en quelque sorte, que l'image rationnelle. Est-ce que vous pouvez développer cela ?
Bien sûr. On n'a pas. C'est une chose tellement difficile d'analyser cette question. Pourquoi ? Parce que avec la photographie maintenant, c'est tellement facile à faire, enregistrer un portrait de quelqu'un. On peut faire une illustration d'un portrait de quelqu'un. Mais pour refaire le portrait, pas des tâches irrationnelles, ça rend. Je ne sais pas pourquoi, j'essaie de l'analyser, mais pour moi, ça rend, si ça marche, ça rend le portrait beaucoup plus vrai et beaucoup plus rassemblant. Parce que ce n'est pas quelque chose qui passe par l'intelligence, mais ça vous choque tout de suite sur l'instinct, que c'est quelqu'un qui est là, c'est plus mystérieux si on peut le faire sans l'illustrer.
Tout à l'heure, vous avez prononcé à l'instant même le mot instinct. Et dans ce livre auquel je me réfère, vous parlez des instincts en disant qu'ils évoluent de génération en génération. C'est une chose que les scientifiques commencent à peine à connaître aujourd'hui, alors que la majorité des médecins, si vous voulez, ou des biologistes, il y a encore 20 ans, pensaient que l'instinct était une chose immuable. Et vous, on dirait que vous avez trouvé, en vous étudiant vous-même, en étudiant l'histoire de la peinture, le fait que l'instinct devant, l'instinct de chasseur peut-être, hein, car le peintre est quelquefois un chasseur, avait évolué à travers les siècles. Vous pouvez nous parler de cette évolution de l'instinct ?
Non, je ne peux pas parler de l'évolution parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas les faits, des choses qu'on voit. Mais je ne peux pas l'expliquer parce que, vous savez, les gens qui ont vraiment étudié cette question sont perdus à ce moment. Mais moi, je crois, j'ai une idée que ça vient du moment de sa naissance. Je trouve que tous ces instincts sont innés dans le fœtus. Et ça vient de très, très loin. Ça peut aller, je ne sais pas, jusqu'au commencement de l'homme. Que ça dure toujours dans un sens ou l'autre, mais c'est un vrai problème dont c'est impossible à parler. Tout ce que je dis, c'est simplement une intuition que j'ai sur cette question.
Dans votre expérience personnelle, cet instinct dont vous parlez, est-ce qu'il a évolué depuis, disons, 40 ans ou 35 ans que vous faites de la peinture ? Et dans quel sens ?
Oh, ça c'est aussi difficile parce que comme je travaille dans une façon très quand j'ai dit à Sylvester, je travaille dans une façon très accidentelle. Alors vraiment, je peux même j'aime un ordre dans la peinture. Mais la façon dans laquelle je travaille, c'est tout à fait hors de l'ordre. C'est un ordre vraiment de l'irrationnel. Et je sais que c'est un peu bête à dire l'ordre de l'irrationnel, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Francis Bacon, le sentiment tragique de la vie. Vous parlez dans ce livre admirablement de la bouche peau. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une bouche, d'une peau?
Non, mais à un moment donné, quand j'étais à Paris, j'ai acheté, par hasard, j'ai trouvé par hasard un livre sur les maladies de la bouche. Et à ce moment-là, ça m'a beaucoup intéressé. Et je ne suis pas arrivé à le faire, mais je voulais faire la bouche comme Monet a fait les couchers du soleil. Je ne suis pas arrivé, malheureusement. Mais alors, je ne veux pas maintenant faire la bouche, peut-être, je ne sais pas. Quand j'ai vu cette exposition aujourd'hui, je voulais tout renouveler. Je veux travailler dans une autre façon. Voilà.
Et dans quelle façon, ça, on ne vous le demandera pas, puisque après ce que vous venez de nous dire, on sait très bien que vous ne le savez pas. C'est évident.
Je sais dans mon instinct, mais je ne peux pas l'expliquer. Je vois, vous savez, avec moi, je vois les tableaux. Dans un sens, ils tombent comme des... Les images tombent comme des... C'est ce que nous appelons en anglais « slides ». D'où il vient, je ne sais pas. Mais c'est de... Je ne sais pas si c'est... Quelqu'un m'a demandé hier si l'expérience de la vie était nécessaire, était importante. Mais ça, je ne sais pas. J'ai souvent pensé, si on est resté seul, dans une chambre toute sa vie, on ferait peut-être la même chose. Mais je ne sais pas.
À force de ne pas savoir, on finit par savoir beaucoup de choses. Alors, il y a une espèce de règle instinctive pour se diriger. Il y a une sorte de prudence, de connaissance pas intellectuelle.
Bien sûr.
Et celle-là se développe, malgré tout.
Oui. Intellectuel, ça ne vous aide pas du tout dans la peinture. Parce que même la peinture intellectuelle ne m'intéresse pas beaucoup. Mais... c'est une sorte d'expérience intérieure qu'on ne sait pas même ce que c'est, qui fait, pour moi au moins, qui fait la peinture pour moi. Je ne veux pas, quand je parle dans cette façon, que vous pensez que je me pense tellement doué. C'est simplement... que c'est une façon d'agir dans ma peinture.
Francis Bacon, tout ça est très calme, mais on a l'impression, à vous entendre, quelqu'un qui n'aurait pas vu vos tableaux, a l'impression d'un sage qui se promène dans l'obscurité et qui finit par reconnaître la beauté du monde. Or, derrière les portes de ce bureau, il y a votre exposition, et quand les gens vont venir la voir, ils vont dire qu'elle est extrêmement violente, que les êtres y sont mutilés, que la torture y fonctionne. J'aimerais que vous nous parliez du tragique et comment vous le vivez, vous.
Oui, je sais que les gens trouvent les tableaux souvent violents, mais pour moi, j'ai pas le moins... Je veux pas donner cette violence, mais il faut pas jamais oublier qu'un tableau ne peut pas être aussi violent que la vie elle-même. Et la vie est tellement violente, alors on peut pas. C'est curieux que les gens croient que mes tableaux soient violents, parce que la vie est beaucoup plus violente. Et comme j'essaie, dans mon sens, d'être réaliste, bien sûr, sont violents.
Dans la peinture ancienne, disons par exemple, au XVe siècle, on avait d'innombrables représentations de martyrs. On voyait des bourreaux retirer les intestins d'un ventre. On voyait des bourreaux couper des seins, décapiter des têtes. Hein. Ce que vous faites, en définitive, pour moi, c'est la continuation de cette peinture ancienne. Est-ce que cette peinture a compté pour vous? Ces images de cruauté qui étaient autrefois dans toutes les églises, voilà maintenant que nous les avons, par vous, dans les musées. Est-ce que ça se ressemble ou est-ce que je me trompe?
Ça, c'est aussi difficile de répondre. Ce que j'admire énormément, c'est le grand tableau de Grunewald. Mais c'est difficile à dire que le Christ est matérialisé, mais c'est parce que c'est un tableau qui est tellement beau que ça, c'est l'esthétique de ce tableau. On sort de cette. Quand on a vu ce tableau, on sort heureux. Je crois que c'est un peu comme les gens sont sortis des pièces d'Eschyle avec cette violence qui vous retourne à la vie.
Francis Bacon, bien sûr, la violence, on ne peut pas la nier, elle est dans la rue, derrière la fenêtre. Cependant, pour le public, dans le tableau de Colmar, dont vous parlez, Grunewald, merci, il y a un espoir, parce que le Christ, on sait qu'il va ressusciter, hein, dans l'esprit des gens. Il y a le bonheur de la peinture, ça c'est bien vrai. Mais pour les gens, en plus, on sait que, eh bien, il va ressusciter et c'est la chance pour les chrétiens de participer. Et alors, chez vous, l'espoir?
Il n'y a pas d'espoir dans ce sens-là. Il y a simplement l'espoir de vivre, de continuer à vivre si on peut, et c'est tout. On n'a pas l'espérance, bien sûr, de l'art chrétien, mais il y a l'espérance de vivre, de continuer à vivre un peu, c'est tout. Et retourner, et en même temps faire des images, parce que je fais la peinture pour moi-même, je ne peux pas le faire pour les autres. Alors c'est à cause de ça que ça m'a beaucoup intéressé que les autres étaient tous intéressés dans ma peinture, parce que je ne pensais jamais de gagner ma vie par la peinture, et c'est seulement une sorte d'accident que on a commencé à vendre des tableaux. Je les ai faits pour moi-même, pour exciter moi-même, pour m'intéresser, parce que la peinture me passionne. Alors, c'est tout. C'est pour cette raison que j'ai commencé à faire la peinture.
Est-ce que maintenant, après ce que je viens d'entendre, vous êtes un homme qui est moins solitaire qu'auparavant?
Je ne crois pas que je suis moins solitaire. Je suis un type qui est toujours très solitaire, je crois. Et je ne pense pas que je suis moins solitaire maintenant. On a acheté mes tableaux. Peut-être les gens connaissent un peu les tableaux, mais ça ne vous rend pas moins solitaire.
En tout cas, il est certain que, disons, des images de foule, telles qu'on en trouvait par exemple chez Goya, ne sont pas entrées dans votre peinture. Les gens sont toujours un, quelquefois deux, et la seule chose qui les rapproche, c'est l'amour. Autrement, ils ne se touchent pas, disons. Et on peut dire que la règle générale, avec les exceptions, est qu'il y a un personnage par tableau. Et si sur une toile, il y a des personnages qui se rassemblent, qui se rencontrent, qui se touchent, c'est qu'ils sont en train de faire l'amour ou de dormir l'un contre l'autre. Est-ce que, quand vous parliez de solitude tout à l'heure, la seule façon d'en sortir, c'est l'amour ou quoi?
Non, je voudrais faire des tableaux avec beaucoup de personnages, mais je ne suis pas arrivé encore. Un tableau que j'admire énormément, c'est le Junta de Filipinos à Castres. C'est pour moi peut-être le Goya le plus remarquable qu'il a fait. Et moi aussi, je voudrais faire des tableaux avec beaucoup de personnages, mais je ne suis pas encore arrivé.
Ça, c'est merveilleux ce que vous dites, parce que ce tableau, il est bourré de personnages, et ils sont tous isolés. Il n'y en a pas un qui parle à l'autre. De même, si vous pensez à un autre Goya que vous avez peut-être vu à Madrid, dans la chapelle dont il a peint la coupole, les personnages ne sont pas ensemble, ils sont côte à côte et ils ne se parlent pas. Qu'est-ce que cela veut dire, à votre avis, pour vous ?
Ça me dit rien du tout, vous savez, parce que ça me dit, ben, j'ai même pas vu l'autre, le Goya dont vous parlez. Mais pour retourner à cette peinture à Castres, c'est ce qui est extraordinaire, c'est la technique, la façon dont laquelle c'est fait. Parce que ça semble être tissé avec la peinture et l'air. C'est fait dans une façon tellement remarquable, mais comme c'était dans le Junta, c'était dans le Junta, alors les gens attendent, bien sûr, ne parlaient pas entre eux parce qu'ils écoutaient le président ou quelqu'un comme ça à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de tableaux de Goya où les gens font des discussions l'un entre l'autre, où ils attaquent l'autre ou quelque chose comme ça. Non, je ne crois pas en Goya que les personnages sont toujours dans la solitude.
Oui, sauf dans ces deux exceptions, mais c'est parce que la Junta des Philippines, c'était la fin. Ou quasiment de l'Empire espagnol, et l'Espagne était en train de perdre cette possession, et il n'y avait plus de raison qu'il y ait de réunion politique, parce que c'était vraiment absent, hein. Et puis peut-être lui, ça ne l'intéressait pas aussi. Et je voulais vous demander si les rencontres de personnages chez vous, vous nous avez mis bien en garde, il faut faire attention, ne pas interpréter, ne pas dire celui qui est à gauche, il parle à celui qui est à droite, il faut être très très prudent. Mais cependant, entre ces êtres, puisque vous les mettez tous séparés qu'ils soient l'un à côté de l'autre, il faut bien qu'il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe entre les êtres de vos tableaux ?
C'est une chose que je ne peux pas vous expliquer, et même je ne sais pas moi-même. Parce que ces images, parce que je suis intéressé dans les images. Alors, s'ils sont liés, moi, je ne sais pas. Mais j'espère de faire, avant de mourir, un tableau avec beaucoup de personnages qui sont liés, qui peuvent causer même l'un avec l'autre. Mais je ne sais pas si je peux arriver à faire ça. Parce que... Vous savez, c'est un problème très difficile aussi. Je trouve que la peinture devient de plus en plus difficile, même que ça ne touche pas sur le même côté du système nerveux que le cinéma, mais je pense peut-être maintenant, si je pouvais revivre ma vie, au lieu de faire la peinture, je ferai le cinéma. Même que ça ne touche pas dans le même partie que j'appelle le système nerveux, mais il y a des possibilités fantastiques dans le cinéma qu'on n'a pas même pas commencé à exploiter.
Par exemple.
Oh, par exemple, tout d'un coup comme ça, je ne peux pas vous dire, mais je crois qu'il y a toutes sortes, parce que c'est un art vraiment extraordinaire que maintenant qu'on pouvait faire des choses tellement remarquables. On a commencé en France avec peut-être à faire des choses remarquables avec Godard et René. Mais bien sûr, à ce moment, c'est un art assez primitif. Je crois avec les jeunes, peut-être la peinture va mourir. Parce que j'ai remarqué avec les jeunes, ils sont plutôt intéressés quand on parle de l'art conceptuel. Voilà, avec l'art conceptuel, il faut presque toujours faire des photos. Et je crois que ça touche sur le plus près au cinéma qu'à la peinture. Et c'est bien possible que la peinture, comme je le fais, est en train de disparaître.
Tout à l'heure, vous disiez, Francis Bacon, que la peinture concernait une partie du système nerveux, pour simplifier, et que le cinéma en concernait une autre. Est-ce que vous voulez dire par là que si la peinture meurt, il y a toute une partie de la réalité humaine qui va disparaître, perdue à jamais?
C'est possible, parce que quand on est... le cinéma, on sait bien que ça ne vous touche pas dans la même façon que la peinture. Mais c'est bien possible que ça va... C'est un côté qui va disparaître, ou que ce côté va se transformer dans le cinéma. Vous savez, ce côté nerveux, ça va changer, parce que ça, peut-être, c'est bien possible.
Après-midi de France Culture, 15h46, l'invité du lundi, Francis Bacon.
Malheureusement, je ne peux pas parler de la musique parce que je ne le connais pas. Et c'est un côté de mon système nerveux qui n'a pas une très grande importance, malheureusement, pour moi. C'est un grand défaut, mais il n'y a rien à faire.
Vous n'écoutez jamais de musique?
Bien sûr, on l'écoute. Mais je ne comprends pas la musique. Tandis qu'avec la peinture, même dans la peinture que je n'aime pas, je peux voir si c'est de la bonne ou de la grande peinture même. Je n'aime pas beaucoup Rubens, mais je sais que c'est un très, très grand peintre. Tandis qu'avec la musique, je suis exactement comme les gens qui disent « Je connais rien, mais je sais que c'est ce que j'aime. » Et ça ne veut rien dire.